Bonjour à toutes et à tous, merci David pour l'animation, on te retrouve tout à l'heure comme d'habitude. Après cette émission, c'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Alors aujourd'hui, nous recevons Alice Mott, directrice des archives départementales, et Rachel Durchetti, vice-présidente des Landes en charge de la culture et du patrimoine. Bonjour mesdames, on va parler aujourd'hui de... Mais on s'appelle Souvenir FM, hein, je crois que les archives ça va pas mal avec. Comment allez-vous ?
Bonjour, bah écoutez, on est ravis d'être là.
Bonjour, de même.
Très bien, alors on va passer une heure ensemble, on va découvrir nos invités, ces archives qui sont vraiment, j'allais dire, fondamentales. Hein. C'est très important dans la vie d'une société. Et on va d'abord écouter le Flash Info national et international, et on retrouve ensuite nos invités pour la première partie de cette émission. Nous voilà de retour. Alors, en préambule, je voulais préciser une chose. Alors, c'est une semaine un peu spéciale, hein, parce qu'on va vraiment parler beaucoup cette semaine de culture, de patrimoine landais et gascon, puisqu'on reçoit donc les archives départementales. C'est pas mal pour commencer. On va recevoir aussi des confréries, les anisotiers, la recette du pantelon, vous allez découvrir, et on va finir par la passem. Donc, je crois que c'est une semaine vraiment très, très landaise. On va commencer par découvrir nos invités. Traditionnellement, on demande en introduction une petite bio, une petite trajectoire personnelle. Et si Madame Durchetti veut se livrer à cet exercice, qu'on apprenne un peu plus de choses sur elle-même.
Bon, ben moi je m'appelle donc Rachel Durchetti, ça fait maintenant 11 ans que je suis élue au département des Landes et j'étais déjà sur un mandat auprès de la culture et du patrimoine. Et c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir promouvoir alors tout ce qui... Alors là, on va parler des archives, mais on a aussi la lecture publique qui dépend de cette grande direction de la culture. On a tout ce qui est patrimoine, l'aide au patrimoine, et tout ce qui est autour du spectacle vivant, les festivals, les saisons culturelles, etc. Donc voilà, c'est beaucoup de travail déjà. Et puis je suis également maire de Bélus, c'est mon deuxième mandat que je viens d'entamer ici.
Félicitations.
voilà. J'étais native, moi, de Bélus, même si je n'y suis pas restée toute ma vie. Je n'y suis revenue qu'il y a quelques années, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. C'est une vie d'engagement au service de tous que j'essaie de mettre en place.
Voilà. Très bien, merci beaucoup. On va passer à notre deuxième invitée, Alice Mott. Alors, vous êtes directrice des archives départementales. Racontez-nous un petit peu votre trajectoire, si vous voulez bien.
Alors, moi, j'occupe ce poste depuis 11 ans maintenant. Moi, j'ai toujours été passionnée d'histoire et donc je suis tombée dans le bain des archives assez jeune. Mmh. J'ai eu la chance de visiter les archives départementales du Nord, dont je suis originaire. Et quand l'archiviste m'a sorti l'acte de naissance du général de Gaulle, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mmh. Donc voilà, j'ai fait des études d'histoire, j'ai eu la chance de faire l'école des chartes. Mmh. J'ai commencé ma carrière comme archiviste en Lozère. Et voilà, j'ai rejoint les Landes en 2015. Il n'y a pas une journée qui se ressemble dans ces belles fonctions.
Oui, très bien. Merci beaucoup. On va parler des archives départementales. On va parler un petit peu, évidemment, on va forcément parler un petit peu d'historique, hein, d'histoire de ces archives elles-mêmes, parce qu'elles-mêmes ont une histoire. Ça a été fondé en quelle période, quelle époque?
Révolution française, voilà. On est une institution plus que deux fois centenaire. Mmh. Et le marqueur historique est important parce que vraiment la création des archives publiques en France, c'est le changement de régime. Mmh. On met à bas l'ancien régime, on crée un régime sur des bases nouvelles qui sont fondées sur la démocratie. Et ça, c'est une composante intrinsèque des archives publiques. Dans les régimes démocratiques, il y a un réseau de services d'archives publiques avec un accès gratuit et libre des citoyens à ces archives publiques.
Pour autant, malgré l'ancienneté, il faut quand même dire... Il y a évidemment le côté historique, ce sont des grandes dames les archives, mais c'est un bâtiment qui est très moderne et qui se veut accessible et ouvert à tous. Il ne faut pas qu'on fasse peur à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est vraiment, Alice elle-même est très ouverte et ses équipes lui ressemblent, elles sont engagées pour pouvoir recevoir un maximum de public et les diriger dans ce grand bâtiment.
Oui. Alors donc, les archives, oui, effectivement, c'est un marqueur de la démocratie, l'accès à la connaissance et à la culture. On sait bien que c'est la première victime du totalitarisme, hein, ce genre d'aspect d'une société, c'est vraiment la première victime. Oui, donc alors les archives, c'est un patrimoine collectif. C'est on garde, on conserve des choses qui ont de la valeur, hein, puisque l'histoire, c'est censé nous éviter de commettre les mêmes bêtises, en tout cas connaître celles qu'ont fait nos prédécesseurs. Donc c'est vraiment donc ça s'adresse à qui, voilà, qui sont vos interlocuteurs, qui peut avoir accès à vos archives?
Bah, tout le monde. Je pense que le message important qu'on veut faire passer ici, c'est que les archives ont souvent une image élitiste, mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Tout le monde peut avoir affaire aux archives à un moment donné de sa vie. Alors, soit par intérêt pour l'histoire, pour la généalogie, puisque voilà, on peut vraiment faire l'histoire de sa famille grâce aux archives. Et puis, il y a aussi une réponse aussi aux demandes administratives, puisque nous, on archive aussi des preuves de droit qui sont éternelles, hein, comme les actes de notaire, le cadastre. Donc, on s'adresse à tout le monde.
Très bien. Alors c'est vrai, moi j'engage les auditeurs à faire comme moi, aller sur le site des archives départementales. Et là vous allez vous dire, ah mais il y a plein de choses, et puis le site est bien fait. Et effectivement on peut chercher, s'amuser à chercher des choses avec son nom. Je crois que c'est la première chose qu'on essaie de faire en général, ou un attachement à un lieu. Et on peut retrouver, moi j'ai retrouvé des traces de mon nom de famille qui date de 1640. J'ai trouvé des documents sur la citation de mon grand-père qui a été blessé au chemin des Dames par exemple aussi. Voilà. Donc là, on se rend compte, on a du mal même à imaginer tout ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on trouve physiquement dans les archives, hein, concrètement, entre ce qui est papier, pas papier, numérique, qu'est-ce qu'on peut y trouver quand on va chez vous?
Alors nous, on conserve 14 km d'archives, donc vous avez un peu la quantité. Alors en France, on peut faire deux fois Lille-Perpignan, Perpignan-Lille, si on met bout à bout tous les cartons d'archives publiques, donc c'est une masse assez phénoménale. Il y a des gisements de toutes sortes, donc il y a des archives historiques à très forte valeur ajoutée, hein, par exemple les archives du cabinet du préfet. On a des archives donc qui fondent les preuves de propriété, comme les archives des notaires ou encore le cadastre. Vous avez des archives avec une forte portée émotionnelle. On a plus de 100 mètres de dossiers d'aide sociale à l'enfance. On couvre une période temporelle très longue, puisque notre plus ancien document remonte à 1253.
C'est ça.
Et les archives, en fait, c'est multi-support. C'est-à-dire qu'en premier lieu, on pense au papier, mais pas que. On a aussi beaucoup d'archives iconographiques, des cartes postales, des affiches, des photos. Et puis le défi actuel de la profession, c'est d'accueillir les archives numériques, les archives électroniques qui sont produites par les administrations. Et les Landes ont été le deuxième département de Nouvelle-Aquitaine à se doter d'un système d'archivage électronique dans lequel on peut archiver des archives natives. Et aujourd'hui, si on prend un exemple simple, on archive les délibérations signées électroniquement par le président Fortinon.
D'accord.
Je disais tout à l'heure, on vient de vivre des élections municipales, il faut que tous les maires pensent, c'est le moment pour tous les maires d'aller fouiller dans les archives qui ont été laissées par leurs prédécesseurs ou qu'ils ont fait pendant les 6 années précédentes. Il faut verser les archives comme ça, publiques, aux archives départementales pour qu'elles puissent être conservées et derrière numérisées éventuellement et accessibles à tous. C'est une des missions des maires. Et pour dire que les archives, on a parlé de l'histoire, c'est l'histoire, mais elles sont toujours en train de se constituer. Tous les jours, on constitue des archives.
Oui, voilà, c'est ça. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des archives qui intéresseront les générations futures, etc. Puis on en a besoin, effectivement, ne serait-ce que pour des raisons légales, de toute manière. Oui, voilà, cette fonction du maire, on n'y pense pas forcément quand on n'est pas de la partie. Qu'effectivement, quand on arrive, celui qui part ou celui qui arrive, il doit dire, il faut pas qu'on perde ce qui s'est passé avant. Hein. C'est vrai que c'est important. Alors, justement, voilà, j'en parlais un peu hors antenne, il y a des fois des incendies dans des mairies, des archives. Voilà, donc effectivement, il faut dire aux gens, même aux particuliers, hein, que ce qu'ils possèdent peut avoir de la valeur pour le bien commun. Hein. J'ai parlé de patrimoine.
C'est ça.
Voilà, universel.
Vous avez raison de le rappeler, il y a aussi des archives privées qui peuvent intéresser le grand public. Quelqu'un de la famille peut avoir, à un moment donné, collecter des ouvrages d'une époque ou des articles qui peuvent intéresser le grand public. Il faut y penser à ça, oui.
Oui, c'est vrai, parce que ça arrive souvent qu'après un décès dans une famille, etc., on trouve des vieux papiers, entre guillemets, et puis on se dit, ah, bon, c'est sûr, ça nous concerne directement notre famille, mais il y a des faits de société dedans, et c'est toujours... Alors, c'est vrai, moi, j'ai expérimenté aussi, voilà, je suis allé sur votre site, j'ai cherché, à un moment donné, il y a un petit peu d'émotion, quand même, qui arrive toujours, parce qu'on a un côté, voilà, dès qu'on voit des gens, des photos, ou des témoignages du passé, il se passe un petit pincement au cœur, c'est marrant, c'est, je sais pas ce que ce phénomène, si c'est dû à la nostalgie, ou un certain attachement à l'histoire, il y a quand même de l'affect, hein, c'est pas que des papiers et des clés USB, hein, il y a de l'affect quand même dans les archives.
Oui, beaucoup. Il y a une forte charge émotionnelle hein, qui se dégage de ces documents hein, quand on arrive à reconstruire des parcours familiaux qui parfois ne sont pas toujours heureux et avec des moments plutôt douloureux parfois. Donc il y a effectivement cet attachement à ce patrimoine et c'est vraiment essentiel qu'on puisse aujourd'hui offrir aux citoyens les sources de leurs racines.
Oui, tout à fait. On va déjà faire notre première petite pause, on va écouter un petit peu de musique et on va ensuite atteindre la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. Voilà, de retour après un petit souvenir d'Orchestral Banner in the Dark, un morceau de circonstances, bien évidemment. Oui, alors donc, on a des choses à raconter sur toutes les ressources et les partenariats qui existent avec tout ce qui fonctionne avec les archives. C'est bien de pouvoir en parler un petit peu, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément. Hein. Des fois, c'est juste un nom, un bâtiment, une fonction administrative, mais il y a des bâtiments, il y a des ressources et il y a des gens.
On est une équipe de 25 personnes avec des métiers très différents. Donc il y a des agents qui sont chargés de collecter et de classer les archives. Hein. C'est le cœur de métier en amont. Hein. On a les archivistes qui sont chargés d'accueillir et d'orienter le public, de l'aider dans tout type de recherche. Voilà, donc c'est des archivistes qui doivent vraiment pouvoir répondre à tout type de questions. On a aussi un photographe qui réalise la numérisation. Oui. On a un agent qui suit plus spécifiquement le bâtiment, puisqu'on a des conditions de conservation assez drastiques. Voilà, une collection de métiers qui sont finalement très modernes, très variés. Et donc, voilà, tout fait sens au sein de cette équipe de 25 personnes. C'est des métiers très transversaux et très polyvalents.
Oui, d'accord. Alors, bon, je pensais, qu'est-ce qui sauvegarde les archives? Je sais que vous avez eu un exercice il y a peu de temps. Voilà, parce que c'est vrai qu'on imagine, si jamais, la catastrophe, c'est le feu dans les archives. Parce que c'est quand même, les archives, c'est le dernier rempart ultime avant la perte définitive d'informations vitales. Donc, alors, comment ça se passe Comment ça se passe s'il y a une alerte, etc. Vous avez des parties numériques et dans un cloud aussi, j'imagine. Tout n'est pas sur une clé USB sur votre bureau, hein, sans caricaturer en rigolant.
Non. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a un système d'archivage électronique qui est donc sauvegardé sur les infrastructures du département. Et puis, pour toute la partie papier, on a travaillé sur un plan de sauvegarde des biens culturels qui permet en fait de définir des procédures en cas de sinistre. Et donc, on a eu vraiment la chance de pouvoir bénéficier de la collaboration de la caserne de pompiers de Mont-de-Marsan, hein, du SDIS, qui sont venus faire un exercice avec nous il y a 10 jours.
Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le feu qui vous inquiète le plus, c'est l'eau.
Oui, voilà. Mais d'ailleurs, les pompiers, des fois, quand on a eu la malchance d'avoir un feu chez soi, on sait que l'eau fait beaucoup de dégâts, en fait. Hein, c'est parce qu'il faut beaucoup d'eau pour éteindre le feu. Et c'est vrai que les documents, ils n'aiment pas trop l'eau non plus. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est un endroit que je n'ai pas encore l'occasion de visiter, mais pour les Journées du patrimoine, ce serait peut-être l'occasion de venir, de voir un petit peu comment ça fonctionne chez vous.
Alors, vous viendrez, mais tout le monde peut venir pour les Journées du patrimoine. Bien sûr, le conseille vivement parce que c'est très intéressant. Alors, le bâtiment est joli de l'extérieur, on le voit vite, mais on peut visiter les coulisses qu'on ne voit pas le reste de l'année. Donc c'est vraiment une visite à conseiller et on rencontre les équipes. Et je le dis toujours en souriant, mais pour découvrir que ce n'est pas les archivistes des films. Hein. On a une équipe très avenante, investie.
Oui, oui.
Voilà, donc on peut les suivre dans les couloirs. Tout le monde doit venir.
Très bien. Le rendez-vous est donné. Alors c'est quand déjà à peu près, je ne me rappelle pas, ces gens n'y pas.
C'est traditionnellement le troisième week-end de septembre, donc les 19 et 20 septembre prochains.
On a le temps de le marquer dans notre agenda, ça va. Alors aussi, vous avez un partenariat important et qui semble évident avec l'éducation nationale, parce que du coup, la transmission, c'est important, parce que stocker des informations, les archives, c'est une chose, mais il faut qu'elles soient vivantes, hein, il faut qu'elles communiquent avec l'extérieur. Hein. Donc vous avez forcément des actions éducatives.
Oui, alors on est conventionné avec l'éducation nationale depuis plus de 10 ans maintenant. Et il faut savoir que dans les services d'archives, l'action éducative, elle s'est développée très tôt. C'est dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a la chance d'accueillir un professeur de l'éducation nationale un jour par semaine qui élabore avec nous des animations pédagogiques, des actions pédagogiques. On reçoit beaucoup de scolaires au sein des archives et c'est vraiment très important de pouvoir sensibiliser le jeune public à l'importance des sources. Surtout vu les enjeux actuels de notre monde contemporain, et de leur ouvrir une fenêtre sur cette institution quand même atypique, et puis sur l'histoire de leur département.
Oui, bien sûr. Alors comment ça se passe ? Vous recevez des scolaires qui sont encadrés dans le cadre d'une sortie pédagogique, ou est-ce que aussi vous avez des extensions de vous-même qu'on peut retrouver ailleurs ?
Alors, c'est une action qui est effectivement multidimensionnelle. On accueille bien sûr les classes sur site aux archives départementales, mais on propose aussi des ressources en ligne. On a une rubrique service éducatif assez extensive sur notre site internet et aussi pas mal de ressources itinérantes. On se déplace aussi dans les classes. Donc voilà, c'est une offre qui essaye de s'adapter un peu à plusieurs catégories de besoins des enseignants et sur pas mal de thématiques à la fois nationales et landaises.
Oui. Bon, mais c'est bon à savoir que les enseignants qui entendent ce message, qu'ils puissent faire appel à vous, parce que voilà, c'est vrai que c'est y a des mallettes pédagogiques d'ailleurs qui sont disponibles pour l'itinérance de l'archive.
Et pour préparer la venue, mais les enseignants ont bien identifié le service. Ça fait partie des choses qui sont promues par l'éducation nationale. Et ils font appel, on reçoit beaucoup de classes de différents niveaux, au gré des expositions, mais on va y venir tout à l'heure. Mais il y a plus ou moins des expositions qui intéressent plus ou moins. Mais au-delà de ça, les enseignants font appel régulièrement.
Oui, alors il y a aussi, évidemment, sur le site, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a les vidéos de Raoul Daris, la Mont-de-Marsan, qui sont assez émouvantes. Vraiment, il y a, je crois, presque une demi-heure d'archives personnelles, de vidéos que l'on peut voir sur votre site. Ça fait partie des archives, là c'est vraiment Montois, mais c'est là aussi, on parlait de choses émouvantes et tout. Et puis, heureusement qu'il existe des images comme ça, parce que sinon, on serait que dans la projection de ce que Hollywood voudrait bien nous faire croire que la réalité.
Oui, on a effectivement une rubrique archives audiovisuelles sur le site internet. Alors pour l'instant, elle est encore modeste. On a ce fonds Raoul Daris. Mais voilà, il se peut qu'encore dans les greniers, il y a de vieilles bobines de films qui traînent.
Oui, c'est ça. Il faut les chercher.
À nous les confier. Voilà, sur le site internet, c'est le fruit en fait de campagnes de numérisation régulières. Tous les ans, il y a des investissements du département de façon à soutenir cette offre à distance. Aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de pages et d'images qui sont en ligne. On peut y trouver plein de sources généalogiques, donc l'état civil, les recensements de population. Il y a également les registres de matricule militaire, si vous voulez faire l'histoire des soldats dans votre famille. Les registres des crews également, des prisons. Et puis aussi pas mal de sources plus général sur l'histoire du département, et notamment les délibérations des communes, pas mal d'iconographie, on a une collection assez importante d'affiches taurines. Il faut vraiment prendre le temps d'aller naviguer, de s'y plonger, de découvrir, et il y a forcément une source d'archives qui vous intéressera ou qui arrêtera votre attention.
Oui, c'est vrai que le site est très riche, et même je suis tombé en cherchant sur des archives audio d'un délibéré. Alors, on entend monsieur Emmanuelli, alors je parle de lui parce que il est incontournable quand on parle d'élan, on a l'air de rien, parce qu'il y a tellement d'institutions qui existent grâce à lui. Il a eu quand même beaucoup d'actions importantes. Donc il y a Monsieur Mitterrand, mais il y a aussi Monsieur Emmanuelli. Et voilà, donc on l'entend parler au cours d'une réunion et tout. Et c'est vrai qu'on se dit, ouais, c'est génial. Ce qui est génial, c'est que ces archives existent, mais que là, à distance, on puisse les consulter. Et ça, c'est quand même, c'est un cadeau, vraiment un cadeau royal, je trouve, d'avoir la chance de pouvoir les consulter comme ça. On va faire une nouvelle pause un petit peu plus longue. On va écouter le Flash Info local ce coup-ci. Et on se retrouve ensuite pour la troisième partie de cette émission. Et c'est reparti. Donc il faut qu'on parle quand même un petit peu de l'actualité. Parce qu'il y a quand même une grosse actualité qui va intéresser beaucoup, je le sais, de nos auditeurs sur le sport dans les Landes. Et spécifiquement quelque chose qui parle du rugby, évidemment. Alors tout ça découle d'une exposition qu'on peut trouver aux archives. Parlons-en, si vous voulez bien.
Alors cette exposition, elle est ouverte depuis 2 ans maintenant. Elle s'intitule « L'élan de le plus beau terrain de sport ». Elle est visible aux archives départementales et aussi disponible, comme le disait Rachel tout à l'heure, en version itinérante. Et donc ça raconte l'épopée du sport dans les Landes. On revient sur l'identité des sports traditionnels, tels que la course landaise par exemple, mais aussi l'implantation de nouvelles disciplines au XXe siècle avec le basket, avec aussi le surf sur la côte.
Oui.
C'est une exposition vraiment plurielle qui met aussi en valeur l'action des acteurs publics dans la diffusion du sport,
oui.
La construction des grands équipements, les vélodromes, les salles de sport. Et puis aussi toute la composante économique, touristique, culturelle du sport. Donc on revient comme ça de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui sur le développement du sport dans le département. Donc précipitez-vous puisqu'elle termine le 30 juin. Donc c'est l'occasion ou jamais de venir la découvrir en famille, avec des amis ou seul. Voilà, il y a des livrets-jeux qui sont proposés, des audioguides. Voilà, pour un quart d'heure ou une heure, la visite s'adapte à vos besoins.
Et précisons bien qu'elle est intéressante pour les non-sportifs, puisque comme l'a souligné Alice, il y a tout ce côté aménagement du territoire qui est bien mis en avant, et où l'on voit que d'abord il y a eu des engagements très forts dans le sport, et y compris en dehors de la sphère sportive, on voit le côté résistant de certains sportifs, etc. Tout ça est visible dans cette exposition.
Ouais.
Et pour ceux qui rateraient, n'hésitez pas à faire revenir les versions itinérantes dans vos clubs ou dans vos mairies ou dans n'importe quel lieu. On peut les demander sur le site des archives. C'est important qu'elles circulent parce que c'est des belles expositions. Tout le monde ne peut pas aller à Mont-de-Marsan.
Ben oui.
Donc faisons l'effort de les faire venir sur nos territoires.
Alors il y a une actualité brûlante, c'est demain je crois qu'il y a une projection d'une archive qui va émouvoir beaucoup de personnes je crois ici. D'ailleurs tout à l'heure on va écouter un peu de musique, on va écouter en jaune et noir et en rouge et blanc. Donc c'est multicolore, pas de jaloux. Donc il y aura une projection d'un fameux match.
Oui, alors demain soir, on fait une soirée rugby sur l'histoire du rugby. Donc ça commence à 17h45 jusqu'en début de soirée. Et donc le but, c'est de revenir un peu sur le rôle du rugby, en fait, dans l'histoire du département depuis son arrivée et jusqu'aux aspects contemporains. Donc la soirée, elle propose une ambiance d'avant-match. On aura la chance d'avoir des chants gascons et puis une démonstration des chasses. Deux parties essentielles, une soirée débat avec les acteurs du rugby landais, puisque cette soirée elle est organisée en partenariat avec le Stade Montois et l'US Dax, ainsi qu'avec la Ligue de rugby. Donc une partie soirée débat et ensuite une partie avec la projection de la finale, la fameuse finale de 1963, entre les deux clubs.
Oui.
Voilà, donc une soirée vraiment conviviale. N'hésitez pas à venir puisque c'est l'occasion aussi de découvrir l'exposition. Et puis aussi une exposition consacrée plus à des photographies tirées de nos fonds et qui raconte cet âge d'or du rugby dans les Landes.
Oui, alors tiens, c'est vrai que le rugby, traditionnellement, les Landes, on pense effectivement à la musique traditionnelle, les échasses, la tauromachie, etc. Ça, c'est arrivé, vous disiez, au début du XXe siècle, plutôt. Qu'est-ce qui a fait que le rugby, si vous savez, est devenu un sport aussi ancré dans notre territoire, en fait, puisqu'il y a des siècles, il n'existait pas, évidemment.
Le rugby, c'est vraiment une composante identitaire du Sud-Ouest. Donc, il s'est développé au tournant du 19e et du 20e siècle à travers des clubs qui ont été un peu pionniers. Et puis, comme on le voit aussi avec le basket sur le 20e siècle, c'est des sports qui vont structurer ensuite la vie des communautés. Et qui ensuite, via des compétitions, emblématiques, va permettre de drainer la ferveur des populations et de construire en fait cette histoire collective.
Oui, ça c'est très intéressant comme sujet, je trouve, parce qu'on parle évidemment des adversaires historiques, Mont-de-Marsan et Dax. Ils sont adversaires, d'ailleurs, au niveau histoire, ils sont adversaires depuis bien longtemps, depuis le jour où, il paraît, on en a parlé avec des invités ici, que des Montois ont peut-être des misères aux Dacois qui montaient à Paris pour revendiquer la préfecture. Hein. C'est une compétition qui date depuis très longtemps. Mais c'est vrai que c'est important, la compétition, ça permet d'éviter les guerres aussi. Hein. Il vaut mieux s'affronter sur le terrain qu'autrement. Voilà.
D'ailleurs, dans la réalisation de cette exposition, initialement, les archives avaient travaillé avec des universitaires et qui continuent d'ailleurs, je crois, à travailler autour de cette thématique, puisque je le disais tout à l'heure, à ce côté aménagement du territoire, c'était les instituts qui créaient plutôt des équipes de rugby, alors que les ecclésiastiques allaient plutôt choisir de créer une équipe de foot ou une équipe de basket. C'est assez curieux, mais cet aménagement là du territoire, oui, il s'est aussi construit de cette manière.
Ouais, ça me rappelle des vieux films, hein, voyez,
de
quels je parle avec Pépone.
Ça ne change pas.
Oui, c'est marrant. Ah oui, il y a une chose aussi, Rachel disait hors antenne, on parlait tout à l'heure de la disponibilité des choses pour les enseignants. Ça peut être pris en charge, en fait. Il faut s'inscrire à l'avance.
C'est important de le dire. Hein. C'est un choix du département des Landes. Alors, puisque donc, depuis les lois de décentralisation, les archives départementales sont dans le giron du Conseil départemental des Landes. Et sur cette partie valorisation des fonds, on a des équipes très investies. Mais le département qui a souci de rendre ça disponible pour tous fait en sorte que le transport soit gratuit. Donc, quand les classes s'inscrivent, il faut s'inscrire suffisamment tôt pour tout organiser, mais le transport est, des scolaires à destination des archives départementales est pris intégralement par le département des Landes.
C'est pas mal parce que voilà, les caractéristiques de notre territoire, c'est son étalement.
Un grand département.
Il n'y a pas de grandes villes, il y a beaucoup de petites villes étalées sur des grandes distances. Et c'est vrai que c'est surtout par les temps qui courent, le déplacement, ça peut être un problème.
Un frein, bien sûr.
Mais toujours, et de plus en plus.
Donc c'est organisé vers les archives et vers les musées départementaux.
Très bien. Bon, ça, c'est vraiment chouette. Et puis, alors, il y a le travail collaboratif aussi. On peut mettre la main à la pâte. On est tout à l'heure que c'est vrai qu'on peut donner des archives personnelles ou les gens qui nous écoutent, que ce soit des maires ou des entreprises, etc. Ils ont peut-être des choses à donner aux archives, mais aussi il y a une approche collaborative, participative. Les gens peuvent mettre la main à la pâte et donner un coup de main. Ça se fait pour les animaux, les comptages des papillons. Et ben, on peut le faire aussi pour les archives. Alors comment ça se passe?
Alors, l'idée, c'est toujours de rendre les archives le plus accessibles possible aux gens. Et donc, nous, sur le site Internet, on met à disposition les archives numérisées avec des moteurs de recherche déjà assez performants. Mais ce qu'apporte l'indexation collaborative, c'est des clés d'entrée encore plus fines. Et donc, nous avons lancé donc un projet qui s'appelle Archivez-vous, par le biais duquel des bénévoles compulsent les archives de façon à y relever les noms et donc font ce que les archivistes n'ont matériellement pas le temps de réaliser. Ce dépouillement de noms est ensuite intégré dans les moteurs de recherche et permettent de faire des recherches beaucoup plus précises. Et si vous les allez sur notre site internet, vous avez une base qui s'appelle nom de famille qui est le résultat du travail de toutes ces personnes. Une dimension importante de ce projet, c'est qu'on peut collaborer à la fois sur place, en salle de lecture, et on peut collaborer aussi en ligne, depuis chez soi. Donc, il y a pas mal de sources qui sont proposées à l'indexation. Alors, celles qui sont proposées en salle de lecture, c'est des corpus un petit peu moins connus qui permettent d'allier le plaisir de la découverte de la source manuscrite avec l'intérêt collectif.
Oui, alors c'est vrai que, encore une fois, on en a parlé plusieurs fois de ce site. Moi, vraiment, j'engage les gens à y aller parce qu'il y a vraiment tellement de choses. Et puis, ça donne forcément, à un moment donné, on a envie de cliquer sur rechercher. Quand on voit tout ce qu'il y a et tout, que ce soit même les vieilles cartes postales, etc., ou les registres notariés, il y a tellement de choses que forcément, je crois qu'on a envie d'aller chercher quelque chose.
Hein. C'est pas si simple de rechercher dans les archives. Donc, les équipes mettent aussi au point des soirées de formation. Alors qu'ils sont, certaines se sont délocalisées, mais bon, le plus souvent, elles se font quand même dans sur le site des archives de Mont-de-Marsan, où on peut aller apprendre à chercher, parce que c'est pas si simple d'aller chercher dans des registres, etc. Mmh. Donc elles font aussi ça, beaucoup de formations à destination du grand public pour que ça soit plus accessible à tout le monde.
Oui, moi c'est vrai que rechercher, il y a plein de gens qui croient parce qu'ils tapent juste une petite phrase dans Google, ils savent chercher, ils connaissent pas les opérateurs logiques, ce genre de choses et tout. C'est vrai que ça s'apprend, hein. c'est
normal. Et notamment pour aller chercher dans des registres anciens, il faut avoir quand même quelques clés pour pouvoir naviguer facilement, c'est pas si simple.
Surtout que des fois on tombe sur du français qui est un petit peu désuet, donc on a un petit peu de mal à interpréter, hein. c'est normal. Il y a des mots
écritures, en fait, tout ça s'apprend.
Ah oui, l'écriture manuscrite à la plume, à l'ancienne, c'est pas forcément évident, hein. Je confirme, j'ai regardé, c'est pas évident. Eh bien, maintenant, on va arriver à notre dernière partie, hein. On fait déjà une petite pause, on va écouter un petit peu de musique ovale. Et on se retrouve ensuite.
Merci. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Vous voulez écouter à nouveau l'émission L'invité du 12h-13h ? Rendez-vous sur notre site souvenirfm.fr et retrouvez tous les podcasts en ligne.
Voici l'heure du combat, nos crampons marchent à l'unisson. Honorons les maillots, défendons nos valeurs dans la force, la sueur. Le rugby nous unit, l'Ovalie c'est notre pays. Les tribunes au terrain, du couloir à l'Elysée, c'est Bonnie qui va s'enflammer. Voici l'heure du combat, nos crampons marchent à l'unisson. Honorons les maillots, défendons nos valeurs dans la force, la sueur. L'Ovalie c'est notre pays. Des tribunes au terrain, du couloir à laisser. C'est Bonnie qui va s'enflammer. Jaune et noir sont nos couleurs. Vos supporters sont là debout. Mont-de-Marsan est dans nos cœurs. Vos supporters seront là jusqu'au bout. Jaune. À l'unisson, honorons le maillot, défendons nos valeurs dans la force, la sueur. Le rugby nous unit, l'Ovalie c'est notre pays. Des tribunes au terrain, du couloir à laisser, c'est Bonnie qui va s'enflammer. Jaune et noir sont nos couleurs.
Souvenir FM, l'émotion plus intense.
en rouge et blanc pour Daxman notre cœur. En rouge et blanc, très fiers de nos couleurs. En rouge et blanc, soutenons nos joueurs. En rouge et blanc, pour qu'ils soient les meilleurs. US Dax, toujours en rouge et blanc. US Dax, nous t'avons dans le sang. US Dax, toujours en rouge et blanc. US Dax, nous sommes des enfants. En rouge et blanc, nos couleurs de toujours. En rouge et blanc, saluons les exploits. En rouge et blanc, sur les bords de la Nour. En rouge et blanc, de notre club d'Atois. US Dax, toujours en rouge et blanc. US Dax, c'est tant de souvenirs. US Dax, toujours en rouge et blanc. US Dax, tu es notre avenir. US Dax reçoit tous nos bravos, en rouge et blanc, fiers de notre maillot. US Dax, nous t'offrons un cadeau, en rouge et blanc, ce chant du renouveau. En rouge et blanc, ce chant du renouveau. En rouge et blanc, ce chant du renouveau.
Et voilà, vous savez ce qui vous attend. Hein. Du coup, c'est vrai qu'on peut rappeler, voilà, demain, il y a cette fameuse retransmission de cette finale qui semble être emblématique, hein, d'une certaine période et d'une certaine rivalité entre deux grandes équipes de rugby des Landes. Hein. Donc, on va redire, c'est à partir de 17h45, c'est ça ?
Voilà, 17h45, soirée débat avec les acteurs du rugby landais et ensuite retransmission
de ce derby
de légende.
Et oui, voilà, c'est vrai que c'est important ça. Voilà, donc voilà, les auditeurs ne seront pas fâchés, j'ai mis les hymnes des deux équipes.
C'est ça.
Pas de jaloux, hein. Alors, attention, pas de jaloux ici. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme actualité ? De quoi on peut encore parler avant de se séparer par rapport aux archives ? Vous avez parlé de police scientifique, tiens donc.
Nos équipes n'ont peur de rien.
Ah,
elles,
oui.
Voilà, elles feront, elles changeront complètement de sujet. Et il y aura, à partir des vacances de Toussaint, une nouvelle exposition, voilà, pour valoriser d'autres fonds encore qui parleront de la police scientifique. Alors, avec des collaborations, Alice va en parler mieux que moi.
Voilà, donc, aux origines de la police scientifique, de Paris jusqu'aux Landes, c'est le titre de cette future exposition qui ouvrira à la Toussaint et qui sera disponible là aussi pendant 2 ans. Le but, c'est de revenir sur cette période assez foisonnante, hein, le tournant fin 19e, début 20e siècle, où en fait, de nouvelles techniques sont mises au point à la préfecture de police de Paris. La photographie judiciaire, le relevé des indices sur les scènes de crime, et de voir comment est-ce qu'elles se diffusent sur le territoire et dans les Landes, au sein de la gendarmerie, de la police. Et pour cette exposition, on a vraiment eu la chance de bénéficier de la collaboration du groupement départemental de gendarmerie et puis de la direction départementale de la police nationale. On a eu la chance de rencontrer les experts les cellules d'experts scientifiques.
Oui. C'est toujours passionnant. Hein.
C'est passionnant, oui, c'est un métier passionnant. Donc ils nous ont reçus pour nous expliquer leur métier, puisque dans cette exposition, au-delà de cette période voilà, dont j'ai parlé, tournant 19e, 20e siècle, on offrira aussi un éclairage sur la police scientifique contemporaine.
Oui.
Voilà.
Alors il y a une partie, il y a police scientifique, j'allais dire enquête dans votre métier aussi, hein, parce que trouver les sources, les valider, les documents, les vérifier, les archiver, il y a quelque chose de technique et de scientifique aussi dans votre travail.
Oui, c'est un métier très normé. En réalité, on a un corpus réglementaire assez fourni parce que les archives publiques, c'est un réseau. Voilà, il y a un service d'archives départementales dans chaque ville-préfecture. Il y a également un réseau d'archives nationales qui collecte les archives des ministères. Et le but, c'est que tout ça soit traité de la même façon normative et réglementaire. De façon à ce que l'usager qui fasse ses recherches dans les Landes, à Paris ou dans le Nord, puisse utiliser les mêmes techniques pour trouver ses sources.
J'imagine que des fois, il y aura des échanges entre certains départements, du style, ben voilà, moi j'ai trouvé ça, ça doit vous intéresser. Qu'est-ce que tu as à m'échanger Je ne sais pas, des informations qui transitent d'un endroit à l'autre, ça doit arriver, je suppose.
Oui, ben alors on a un réseau professionnel de coopération assez forte. Alors bon, le principe, c'est la territorialité, c'est-à-dire que nous, on collecte vraiment exclusivement ce qui concerne les Landes, mais c'est vrai qu'au hasard de tri, de découverte, on est parfois amené à diriger les collègues vers des sources qui concernent leur département.
Oui, bien sûr. On avait reçu les amis du Vieux Saint-Paul ici. Et ben voilà, ils travaillent aussi. Ils viennent vous voir des fois et récolter des archives, voire même vous en remettre, parce qu'avec le temps, on le fait tous. En fait, on le fait tous archiver quelque part. On garde toujours des choses, beaucoup d'objets, etc. Et puis voilà. Et puis, il arrive un jour où quelqu'un doit s'en débarrasser à notre place. Voilà. C'est quand même bien de faire le tri. Voilà, il faut rappeler aux gens que voilà, les archives qu'on a, nous, chez nous, peuvent avoir de la valeur pour tout le monde. C'est des traces du passé et des informations qui sont des fois capitales pour... c'est de l'histoire et du patrimoine. Voilà.
Rien. Moi, c'est vrai qu'on arrive au terme de l'émission. Il faut que tout le monde comprenne bien qu'on est dans un service public qui est ouvert et accessible à tous et que nos équipes sont là pour ça.
Oui, voilà. Tout à fait.
Et elles sont motivées.
Non, mais je crois que les gens ont compris. Il n'y a pas de poussière dans le cloud. On est bien d'accord. Voilà. Donc voilà, la partie numérisation est importante. Je pense que ça va être un travail incessant. C'est ça, on va numériser tout ça et l'indexer aussi. C'est-à-dire qu'il y a un sens qu'on puisse retrouver. Et ce travail collaboratif, c'est vraiment sympa de pouvoir participer à l'indexation ne serait-ce que des noms pour retrouver les choses dans les documents. Ça, c'est un travail de fourmi, n'est-ce pas? Eh bien, mesdames, merci beaucoup d'être venues. Nous avoir parlé de tout ça parce que voilà, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont dit « Ah, mais... c'est vrai, ça existe ce truc et ça sert à ça, ça marche comme ça. Il y a des gens dedans qui font des choses et des expos qui nous concernent et qui nous intéressent. Donc voilà, merci beaucoup mesdames d'être venues nous en parler.
Merci beaucoup à vous pour cette invitation.
Merci, au revoir.
Au revoir.